Bonjour et bienvenue dans De l'idée au projet, le podcast du Relais Culture Europe, bureau français du programme Europe Créative, dans lequel on se demande comment monter un projet culturel européen de A à Z, comment l'imaginer, le pitcher, trouver les bonnes personnes pour y collaborer et surtout comment le financer. Dans chaque épisode, on découvre les coulisses d'un projet ou d'une entreprise culturelle qui nous dévoile les secrets de sa réussite. Alors, évidemment, quand on pense culture, on pense au cinéma, à la musique, à la littérature, au spectacle vivant. Mais il y a un domaine de la culture qu'on oublie souvent, c'est les médias. Pourtant, ils font bien partie du champ d'action du ministère de la Culture en France et du programme Europe Créative de la Commission européenne qui soutient les secteurs de la culture et de l'audiovisuel. Alors, dans cet épisode, on va parler des médias, on va parler de journalisme avec Thibaut Brutin, qui est secrétaire général de Reporters sans frontières, une ONG française qui se bat depuis 1985 pour le droit à l'information et la défense des journalistes. Pour commencer, je demande à Thibaut Brutin de m'expliquer ce que c'est exactement Reporters sans frontières.
Reporters sans frontières, c'est un mouvement international de défense des journalistes et du journalisme porté par une association de droit français, un secrétariat international qui est basé à Paris. Mais au total, c'est 150 collaborateurs dans 15 bureaux et sections à travers le monde qui œuvrent concrètement pour une presse libre, indépendante et pluraliste.
Ça a été créé en 1985, vous avez fêté vos 40 ans l'année dernière. Qu'est-ce qui a évolué pendant ces 40 ans dans la mission de RSF ?
Alors d'abord, les menaces qui pèsent sur la presse ne sont plus exactement les mêmes qu'il y a 40 ans. Et je crois que l'honneur de RSF, c'est d'avoir su évoluer avec ces menaces, d'avoir une proposition renouvelée d'action qui permette de contrecarrer l'imagination débordante des prédateurs de la presse. Nous sommes aujourd'hui non seulement dans une explosion des formes journalistiques sur le digital, mais en plus de ça, il y a une compétition qui est accrue avec toutes sortes d'autres types de contenus qui peuvent être des contenus amateurs, des contenus qui relèvent de l'opinion, des contenus de propagande, des contenus commerciaux, et tout ça particulièrement dans l'espace numérique. Donc c'est pour ça qu'il est important de penser ce secteur pour traiter les grands enjeux aujourd'hui du journalisme.
Vous avez été nommé directeur général de Reporters sans frontières en 2024, suite au décès de votre prédécesseur Christophe Deloire. C'est quoi votre job concrètement en tant que DG de Reporters sans frontières ?
Alors, c'est d'abord un travail d'animation des équipes. Nous avons un réseau qui est très important et donc je suis le représentant, le garant de la cohérence, mais aussi de l'action de l'ensemble de ces parties prenantes du réseau. Il y a un travail de représentation, je suis le principal porte-parole de l'organisation et je le suis à la fois dans les médias d'information, mais aussi dans le cadre de toutes sortes de conférences, d'interventions publiques, de rencontres avec des dirigeants politiques ou institutionnels. Et puis, peut-être la troisième activité qui me paraît fondamentale, c'est d'impulser une nouvelle stratégie, à la fois aller vers une inclusion plus grande des citoyens dans notre combat, pour se dire que la liberté de la presse a un corollaire, qui est un droit de l'homme, et que ce droit de l'homme, c'est le droit à l'information fiable dont tous les citoyens devraient pouvoir bénéficier à travers la planète. Deuxièmement, que nous sommes un mouvement mondial et qu'il faut mieux le montrer, il faut mieux le dire. Et troisièmement, se dire que nous sommes dans un moment d'hystérie du débat public, de très grande violence, de très grande polarisation, qui doit nous inviter à sortir de la société du commentaire plus que jamais pour être dans l'action. Et je crois que ce que les gens aiment dans RSF, c'est que nous sommes une organisation qui est combative et que nous passons plus de temps à agir qu'à parler, que nous ne sommes pas là pour remplir un vide dans les médias. Nous ne sommes pas une agence de presse ou une société de communication au service des journalistes en danger. Nous sommes littéralement en train de les aider et c'est quelque chose qui pour nous est tout à fait fondamentale et nous rend fiers.
Quand vous dites on passe plus de temps à agir, par quoi ça passe concrètement comme type d'action ?
Alors, on a trois types d'actions. Tout d'abord, on a une activité qui est très importante, qui est d'alerte, de documentation sur les crimes commis contre les journalistes. Deuxièmement, nous sommes une organisation de plaidoyer, c'est-à-dire que nous allons au contact direct des prédateurs de la liberté de la presse. Nous allons voir, nous avons discuté par exemple avec les talibans. On a le portable des talibans, on peut les appeler. Nous sommes en mesure d'influencer le débat, d'influencer des situations concrètes. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons aussi parfois avec l'arme du droit, utiliser les différentes voies d'action judiciaire, juridique, peut permettre de changer les choses. Et puis troisièmement, nous avons des projets de soutien aux journalistes. Chaque année, c'est plus de 700 journalistes qui sont bénéficiaires de bourses de Reporters sans frontières. Ça peut être 200 euros pour quitter une ville qui va être encerclée par les forces armées russes en Ukraine. Hein. C'est aussi accompagner des journalistes dans leur chemin d'exil. C'est soutenir des rédactions pour reconstruire leur activité si leur siège a été mis à sac. Voilà, c'est vraiment trois leviers d'action principaux qui font qu'aujourd'hui, nous sommes une force, je crois, en action, en mouvement pour les journalistes.
J'ai l'impression que quand on pense à RSF et à ses actions, on pense beaucoup reporters de guerre, journalistes emprisonnés, grands reporters, journalisme international, et on pense beaucoup moins presse locale, par exemple, actualité quotidienne et locale. Est-ce que c'est aussi des domaines auxquels vous vous intéressez ?
Bien sûr, la partie qui est consacrée à la défense des journalistes sur les terrains de guerre ou dans les zones et pays répressifs, c'est, je pense, tout de même plus de la moitié de notre activité. Mais comme je vous le disais, il y a une fragilisation générale du journalisme. Donc c'est pour ça que RSF est évidemment à la manœuvre dans les pays répressifs, les pays qui sont en rouge sur la carte de la liberté de la presse. Mais nous savons aussi que rien n'est jamais acquis. Que la liberté de la presse, c'est un combat. Je rappelle qu'en France, on est mort encore il y a quelques années pour la liberté de la presse. Et donc, il faut prendre garde, parce que ce genre de vent mauvais qui souffle actuellement peut avoir des conséquences réelles sur la capacité de nos concitoyens à accéder à une information libre sur l'ensemble de ce qui se produit en France.
Vous pensez au débat sur la privatisation de l'audiovisuel public ?
Par exemple, la mauvaise querelle que l'on veut faire à l'audiovisuel public est sans commune mesure avec la réalité des chiffres. La confiance est plutôt là, les audiences sont très largement là. Il y a une forme d'économie que s'imposent les médias du service public depuis de nombreuses années. Et donc ce service public de l'information, je dirais même de façon plus positive, c'est le refuge du pluralisme, c'est le refuge de l'enquête et de l'investigation. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelque chose de très dangereux dans cette espèce d'agitation politique qui sert en fait une stratégie délibérée de discrédit des journalistes.
Vous avez publié, il me semble, une enquête sur la façon dont le groupe Bolloré justement menait une cabale contre l'audiovisuel public.
Qui parle ? De quoi parle-t-on ? Et comment sont traités les sujets sur les chaînes d'information en France ? Vous allez le découvrir. Pendant des mois, Reporters sans frontières a mené une enquête hors norme. Des centaines de milliers de bandeaux d'informations collectées, des heures d'antennes analysées sur toutes les chaînes françaises d'information en continu. Résultat ? Une radiographie du pluralisme inédite en France.
Vous faites beaucoup aussi comme ça de formats d'enquête ou pour dénoncer des faits sur Internet. J'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube.
Oui, alors nous sommes convaincus que la parole de RSF ne doit pas être une parole uniquement de commentaire de l'actualité. D'autant plus que ça nous met dans une position qui est assez inconfortable, qui est d'être devant une sorte de fait accompli ou de réaction. Il est important pour nous d'être en action. Et je prendrai par exemple l'exemple aux Philippines de cette journaliste courageuse, Franchi Mecumpio, qui a été incarcérée, qui est toujours en prison, et qui faisait encore l'objet récemment de poursuites pour une complicité d'assassinat. Et nous avons fait une contre-enquête, nous avons dépêché un enquêteur qui a travaillé pour essayer d'établir comment on avait construit un dossier à charge contre cette journaliste, que tout ça était complètement à la fois faux, mais aussi instrumentalisé pour essayer de nuire à sa réputation, essayer de la garder en prison le plus longtemps possible. Et donc oui, je crois que le journalisme au service du journalisme, c'est quelque chose de très important. C'est une sorte de démonstration d'utilité et nous sommes très fiers de pouvoir utiliser le registre de l'enquête qui est au fond peut-être là où le travail journalistique de RSF peut avoir la plus forte valeur ajoutée.
Combien de journalistes travaillent pour RSF ?
Nous avons une quinzaine de journalistes dans la rédaction à Paris. On a 60 personnes dans l'organisation à Paris et il y en a une quinzaine qui sont détenteurs de la carte de presse. Et dans chacun des bureaux et sections à travers le monde que nous avons, il y a également des personnes dont la fonction est d'écrire, de diffuser, de filmer, de podcaster.
J'ai vu que vous aviez des sections et des bureaux en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Finlande, en Suède, en Suisse, à Londres, à Bruxelles, Tunis, Washington, Rio de Janeiro, Dakar et Taipei. Est-ce que j'en oublie ?
Je crois que vous n'avez pas dit Prague, qui est le dernier né, puisque nous l'avons ouvert cet automne, parce que nous sommes convaincus que le centre de gravité, dans tout le sens de cette expression, s'est déplacé à l'Est, en Europe, et que nous devons prendre en compte cette nouvelle donne. Il y a une sorte de laboratoire de la répression contre les journalistes au sein de l'Union européenne qui existe. Ça s'appelle la Slovaquie, ça s'appelle la Hongrie. Ça pourrait demain être la Tchéquie. Et c'est pour ça que nous avons trouvé important de renforcer notre présence en Europe centrale.
C'était un peu le sens de ma question. Comment vous choisissez les endroits où vous installez des bureaux et des sections ? Est-ce qu'il faut que ce soit forcément des pays où il y a un grand respect de la liberté de la presse pour que vous puissiez faire votre travail et rayonner dans la région ? Ou au contraire, vous essayez d'aller dans des pays où il y a potentiellement un danger pour la liberté de la presse pour être là un peu en amont et en soutien des journalistes ?
Alors, c'est un peu des deux. Et je rajouterai une troisième dimension que nous regardons avec beaucoup d'attention, qui est le soutien. En tout cas, la bienveillance nécessaire des communautés journalistiques sur place. Si vous allez demain en Tchéquie, vous verrez à quel point il y a un besoin exprimé par les journalistes tchèques de dire justement l'ampleur des campagnes qui pèsent sur l'audiovisuel public, de dire les menaces du parti motoriste qui est arrivé au pouvoir et qui n'aime pas du tout les journalistes. Et c'est intéressant parce qu'il y a un vrai besoin. Donc nous, on essaye de saisir ça, de saisir la balle au bon pour aller s'installer dans des espaces, dans des communautés qui nous disent que leurs enjeux sont sous-représentés, que l'action en faveur des journalistes est trop faible encore. Et c'est ça qui est le cœur de notre décision le plus souvent.
Donc on a compris, vous faites pas mal de choses, vous avez des lieux physiques pour rayonner dans des régions, vous faites une veille de la liberté de la presse, des actions en justice pour faire libérer des journalistes incarcérés, des aides concrètes à des journalistes ou des médias fragilisés, comme par exemple le prêt de gilets pare-balles sur des zones de guerre. Vous faites aussi du lobbying pour faire évoluer les lois dans certains pays et garantir la liberté de la presse. Combien ça coûte tout ça ? C'est quoi le budget de RSF ?
Ça coûte à peu près 15 millions d'euros par an. Et la croissance de l'organisation a été assise pendant assez longtemps sur l'aide publique au développement, les subventions publiques venues de nombreux pays européens. Et donc c'est ça qui a été le grand moteur de la croissance et du développement de RSF. Désormais, on essaie de développer le don grand public. On utilise aussi, au mieux, je crois, les possibilités qui sont offertes par les financements publics européens. Et notre dynamique aujourd'hui est une dynamique très positive, un peu à contrario, je dirais, du secteur des ONG qui a plutôt un sentiment de décroissance en ce moment.
Sur votre site, vous êtes très transparent sur vos finances. Je suis donc allée fouiller pour regarder tout ça de plus près. En 2024, le budget réel était de 13,3 millions, en gros.
Ouais.
Et sur ces 13,3 millions, 8,7 millions étaient des subventions publiques, dont un peu moins de la moitié de subventions françaises. Donc ça veut dire que vous avez, en gros, un tiers de votre budget qui venait de subventions publiques qui n'étaient pas françaises. Est-ce que c'était uniquement des subventions européennes ou des subventions pays par pays, là où vous avez des bureaux?
C'est principalement du pays par pays, hein. C'est clair. Moi, j'avais les chiffres que je donnais tout à l'heure sont les chiffres 25, parce qu'on vient de finir l'année 25, et nous avons donc évidemment les yeux sur les compteurs. Et les subventions publiques françaises représentent aujourd'hui, en début 2026, sur le budget en tout cas 2026, aux alentours de 10% du budget global de la structure. Donc c'est plutôt en baisse, et c'est lié aussi alors à la fois à la baisse en valeur de ces financements français, mais aussi à l'augmentation en valeur des autres financements. Mais oui, les financements sont aussi des financements que nous allons chercher agence de développement par agence de développement, pays par pays. Et une fois de plus, saluons l'engagement des pays nordiques en ce qui concerne la liberté de la presse, quelle que soit d'ailleurs la majorité politique. Il y a une forme de stabilité du don, une stabilité de l'ancrage aussi diplomatique, parce qu'il n'y a pas que l'argent, c'est aussi des pays qui s'engagent fermement, fortement sur ce sujet-là.
Vous allez aussi chercher des financements au niveau de l'Union européenne. J'ai vu que vous aviez remporté en 2022 l'appel News du volet transsectoriel du programme Europe Créative, qui vous permettait de conclure des partenariats et de financer la Journalism Trust Initiative, JTI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est déjà? Et ensuite, on parlera de son financement.
Alors, la JTI est une norme de type ISO qui a été créé en 2019 et qui vise, sur la base de 130 questions auxquelles répondent les médias, à accroître la transparence des médias sur leurs propriétés et sur leurs pratiques. C'est assez comparable, si vous voulez, au label qui existe dans le cadre du commerce équitable. Ça ne vous dit pas que le chocolat est bon, parfois il est dégueulasse d'ailleurs, mais ça vous explique comment il a été fait. Nous sommes convaincus que le journalisme est une méthode et que cette méthode, elle doit être évaluée. Elle doit être exposée par ceux qui revendiquent la qualité de journaliste. Il existe d'ailleurs des agréments pour les titres de presse dans un certain nombre de pays, mais tout ça est un peu éclaté, il n'y avait pas de standard international. Et donc nous avons réuni en 2018-2019 un grand nombre d'acteurs du champ de la presse, que ce soit d'ailleurs des patrons, des syndicats de journalistes, des régulateurs, des conseils de presse, etc., etc., pour créer du commun, pour essayer de créer un dénominateur commun à tous les titres. Et donc cette norme, elle se déploie de façon, je crois, assez harmonieuse aujourd'hui, avec plus de 2000 médias qui sont engagés dans l'initiative, des centaines qui ont publié un rapport de transparence, et d'autres qui sont certifiés par des certificateurs, donc des organisations dont le métier est de vérifier les dires des médias qui ont répondu donc, à ce questionnaire. Le but est évidemment la transparence, mais aussi plus généralement de recréer un cercle vertueux, parce que si vous distinguez ce qui relève du champ du média d'information de ce qui ne l'est pas, eh ben le but après, c'est d'aller chercher un avantage comparatif, d'avoir une bonification des annonces publicitaires, d'avoir un accès à des aides à la presse ou à des financements privés pour les médias, d'avoir toutes sortes de bénéfices qui sont associés à cette qualité, à cette démonstration. C'est comme ça que ça fonctionne dans tous les secteurs économiques. La certification, la normalisation permet une meilleure circulation des produits, une meilleure transparence des processus pour créer de l'adhésion et pour redonner un avantage à ceux qui s'astreignent à une exigence.
Et donc, pour financer la JTI, vous avez répondu à un appel à projet de l'Union européenne en 2022. Qu'est-ce que ça vous a permis de financer, le fait de décrocher cet argent de l'Union européenne ?
Eh bien, ça nous a permis d'avoir une approche qui est une approche européenne. Il est clair que trop souvent, le débat sur le journalisme, son avenir, est réduit, circonscrit à un champ national, alors qu'en fait, les problématiques, elles sont très largement transfrontalières. Enfin, et de même que les problèmes sont internationaux, de même, les solutions peuvent être internationales. Et c'est pour ça que la JTI, qui s'inscrit dans un projet, dans un appel à projet News de Creative Europe, c'est pour nous très important, parce que il est important d'avoir cette perspective de ceux qui sont en Europe centrale, en Europe du Nord, en Allemagne, etc., pour trouver du commun, pour créer du commun, pour trouver un déploiement aussi qui trouve tout son sens à l'échelle européenne.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qui est ressorti de ce partenariat avec Europe Creative que vous avez noué en 2022 ?
Alors, il est ressorti de l'activité, ce qui est essentiel, du déploiement de la JTI, avec aussi la création de ressources, qui sont des ressources qui ont été calibrées pour les médias européens, pour faire en sorte que tout le monde puisse se sentir concerné par la JTI. On a travaillé aussi avec des acteurs qu'on trouve très pertinents, notamment Tactical Tech en Allemagne, qui est un acteur très fort en termes d'éducation aux médias. Donc, c'était vraiment intéressant d'être dans une approche d'écoute et de pouvoir aussi essayer de créer des synergies, d'essayer de se dire, voilà, avec Free Press Unlimited, par exemple, nos partenaires néerlandais, de voir ce que nous pouvions faire avec les communautés qui sont les nôtres pour essayer de créer de la synergie.
Quand vous dites des outils pour répondre à la JTI, c'est quoi ? C'est des traductions, par exemple, dans des langues différentes de ce test ? Enfin, par quoi ça passe ?
C'est plus de donner une idée de ce qui doit être répondu. Pas forcément pour que les gens copient-collent, hein, et les bonnes réponses.
Parce que un guide de bonne pratique.
Voilà, un guide de bonne pratique sur des choses qui peuvent faire défaut parfois dans des rédactions. Je veux dire, il y a beaucoup d'organisations médiatiques qui se lancent où la charte éditoriale n'est pas clairement établi. Et c'est là où nous avons travaillé à créer des ressources qui permettent de donner un cadre en disant bah, « vous ne disposez pas de ce document, voilà quelques idées qui peuvent vous permettre de l'établir, voilà des modèles, etc. etc. » Parce qu'aucun média n'est parfaitement en conformité avec toutes les exigences, c'est normal, c'est pas grave, mais ça nécessite du boulot.
Cet appel à projet News, vous y avez répondu en 2022. Est-ce que depuis, vous avez répondu à d'autres appels à projets de l'Union européenne ?
On y travaille et c'est pour nous important de garder justement cette dynamique européenne à l'œuvre, à la fois sur ce qui peut être l'adhésion des rédactions au combat pour la liberté de la presse, mais aussi sur le déploiement de solutions comme la GTI ou d'autres. Il est important de passer par des appels européens.
Quand on regarde vos financements, on voit qu'il y a à peu près 65% qui sont financés par des subventions publiques, mais il y a aussi d'autres sources de revenus, comme les activités commerciales, donc la vente notamment des 3 livres de photos journalistes que vous publiez chaque année, et le don et les mécénats qui donnent à Reporters sans frontières.
Alors, tout un chacun. Il est très intéressant de voir que nous avons le grand public comme soutien. Les 40 ans de RSF qui ont été célébrés pour la partie française en novembre à la Gaîté Lyrique, il y avait plus de 2000 personnes. Nous sommes une organisation qui jouit d'une vraie reconnaissance de sa marque, de son identité, mais qui a en plus un soutien populaire réel. Les gens savent qui nous sommes, ils savent ce que nous voulons, et ça nous permet d'avoir une vraie liberté. Puisque c'est un financement qui est un financement qui doit être dépensé dans le cadre de nos missions sociales, en lien avec notre stratégie, mais il n'est pas fléché ligne à ligne, comme ça peut être le cas dans les projets financés par des agences de développement ou dans le cadre de projets Creative Europe. Donc c'est une vraie liberté, ça nous donne une marge de manœuvre, et je rappelle que nous vivons dans un monde imprévisible. Donc il nous faut garder de la marge de manœuvre pour pouvoir répondre à des crises, pour pouvoir être en soutien, y compris dans un déploiement ultra rapide de nos forces. C'est, je crois, quelque chose qui est attendu de RSF.
Qu'est-ce qui évolue là dans le budget de RSF pour l'année 2026-2027, pour les années à venir ?
Alors, ce qui évolue, c'est que nous avons à la fois de grandes prudences, parce qu'on voit que il y a un déclin du financement public. Donc la principale évolution qui est en ligne avec notre stratégie, c'est d'être dans un désir de conquête de nouvelles agences de développement pour contrecarrer la baisse relative des budgets des agences de développement. Certaines n'honorent même pas les contrats pluriannuels qu'elles ont signés et opèrent des baisses discrétionnaires. C'est assez regrettable parce que si on se dit qu'on signe avec un État, on peut se dire qu'on signe avec un acteur qui a un engagement qui est certain, considérable, qui a une volumétrie, une taille qui est sans commune mesure avec celle d'une ONG. Mais il se trouve que les paroles ne sont pas toujours tenues. Et puis, nous avons un autre enjeu qui est celui du développement du don grand public. Et je pense qu'il est important d'avoir un don du grand public qui soit en adéquation avec la reconnaissance dont on fait l'objet, avec cette popularité que l'on mesure. Et donc c'est pour ça que nous sommes assez présents sur les réseaux sociaux, que nous avons simplifié une grande partie de nos discours pour revenir aux essentiels. Ça, c'est sur le côté recette. Sur le côté dépenses, on a des investissements qu'il faut qu'on fasse. Il nous faut, de façon impérative, avoir une possibilité de soutien direct aux journalistes avec des financements non affectés, imprévisibles, des enveloppes qui permettent de répondre aux crises, aux urgences. Nous avons aussi besoin de produire des rapports, de produire des films documentaires. Et donc, c'est tout ça qui se reflète dans ce budget de l'année, avec des dynamiques qui sont plus fortes là-dessus.
Quels sont les dossiers importants pour RSF en 2026 ? Est-ce qu'il y a des pays, des endroits, des médias que vous allez regarder un peu plus attentivement que d'autres ?
Alors, il y a de toute évidence le ton que donne Donald Trump à l'ensemble du champ politique mondial qui nous inquiète tout particulièrement.
Why do you blame the Biden administration
Because
for what this man did?
Are you stupid? A stupid person? Because they came into on a plane along with thousands of other people that shouldn't be here. And you're just asking questions because you're a stupid person.
Ce monsieur non seulement déconstruit la liberté de la presse dans son propre pays, mais aussi il détricote le soutien à la liberté de la presse au niveau mondial et il encourage les autres à faire de même. Donc on est face à une sorte de phénomène politique qui est extrêmement dangereux et sur lequel nous sommes une fois de plus en combat. Hein. Nous avons mené et nous menons toujours des actions contentieuses devant les tribunaux américains contre l'administration Trump, et nous continuerons à le faire. Donc ça, c'est une première préoccupation.
Est-ce que c'était déjà le cas lors de son premier mandat, ou est-ce que vous remarquez une attitude différente vis-à-vis de la presse entre son premier et son second mandat ?
Ah, il est vraiment pire, Donald Trump 2, hein, on ne va pas se mentir. En tout état de cause, il est clair qu'avant, il y avait beaucoup de rodomontades. Là, il est vraiment dans la mise en œuvre d'un programme extrêmement réactionnaire, extrêmement radical, et que dans cette perspective, le journalisme, c'est pour lui quelque chose qu'il faut anéantir quasiment. Et on en voit les conséquences. Hein. Il est en train de supprimer les médias de service public américains, y compris ceux qui étaient des outils formidables de défense de la liberté de la presse à travers le monde. Je pense à Voice of America, Radio Free Europe. Et ça, c'est très inquiétant. Nous avons un regard sur Donald Trump. Il y a la question de la propagande aujourd'hui qui se fait sentir, notamment en Chine et en Russie. Nous avons des dirigeants politiques qui ont développé des politiques qui visent à discréditer le journalisme dans leur propre territoire, mais au-delà. Et peut-être pour vous donner un troisième enjeu, nous sommes convaincus qu'il faut défendre un écosystème des médias fort au sein de l'Union européenne, notamment en France, et que là-dessus, il faut qu'on trouve vraiment des solutions qui soient à la hauteur du moment. Il y a d'ailleurs des textes européens de premier plan, hein, je pense au règlement européen sur la liberté des médias, qui a été adopté puis est rentré en vigueur en août 2025. Ce texte doit être appliqué. Et en France, par exemple, le besoin d'une loi de mise en conformité avec ce règlement européen se fait très profondément sentir avant l'échéance électorale de la présidentielle de 2027.
Comment soutenir Reporters sans frontières pour les gens qui écoutent?
Faites un don sur rsf.org, diffusez nos messages, lisez nos messages déjà, regardez nos vidéos, nos contenus que nous diffusons. Je crois qu'il y a une forme de besoin d'engagement citoyen. La liberté de la presse, ce n'est pas qu'un sujet de journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, par exemple, et ça nous paraît important que tout un chacun puisse rejoindre ce combat-là. C'est un combat pour votre droit à l'information fiable, alors faites des dons, parce qu'on a bien besoin de vous.
Merci à Thibaut Brutin d'être venu parler des actions et du financement de Reporters sans frontières. Si vous voulez en savoir plus sur RSF, rendez-vous sur leur site, leurs réseaux sociaux ou bien leur chaîne YouTube. Et si vous êtes un média ou une organisation investie dans le champ médiatique et que cet entretien vous a inspiré, jetez un œil aux appels à projets du programme Europe Créative qui cible les médias. Il y en a deux, News Journalism Partnerships, qui soutient la collaboration européenne d'acteurs professionnels des médias d'information pour promouvoir un environnement médiatique diversifié, indépendant et pluraliste, ou bien pour renforcer les modèles d'entreprise, les normes de production et de distribution, ou enfin, pour favoriser la coopération transfrontalière, le journalisme collaboratif et la qualité éthique des contenus. Le deuxième appel à projet s'appelle News Media Literacy et il propose de vous aider à financer des projets innovants en matière d'éducation aux médias. Vous trouverez des fiches détaillées sur ces appels à projets sur le site du Relais Culture Europe, volet transsectoriel. Les équipes du Relais sont aussi là pour vous aider à préparer vos dossiers et à bien comprendre tous ces appels à projets. De l'idée au projet est un podcast du Relais Culture Europe, le bureau en France du programme Europe Créative. Journalisme et réalisation, Mathilde Mélin.